Le Groenland, c'est la plus grande île du monde. C'est une île qui est 5 fois grande comme la France, dont les 9/10 sont couverts d'un désert de glace.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller au Groenland ?
Cette question, adressée en son temps par la voix d'un enfant au grand explorateur polaire français Paul-Émile Victor, nous taraude aussi avec notre invité cette semaine. Un homme sempiternel voyageur, comme il se décrit, qui a cédé dès la fin des années 50 à l'appel du Grand Nord. Il est l'auteur d'un unique et mythique récit de voyage, l'Africain du Groenland, qu'on avait déjà cherché à recevoir en 2015 à l'occasion de la réédition de son livre, devenu jusque-là introuvable en France. Et puis, finalement, nous n'avions pu nous rencontrer derrière les micros de RFI. C'est dire la joie mêlée d'un sentiment d'honneur qui, 5 ans après, m'habite alors que Tété Michel Kpomassi se trouve aujourd'hui en face de moi dans nos studios parisiens. Bonjour à vous, chers auditeurs, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et bonjour à vous, Michel Tété Kpomassi. Merci d'être venu jusqu'à nous.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, votre récit, L'Africain du Groenland, est paru pour la première fois en 1980. Depuis, il se trouve être traduit dans plus de 8 langues. Et dès sa sortie, il va marquer les esprits. Vous, Tété Michel Kpomassi, vous êtes né en 1941 et vous avez entrepris ce long voyage de près de 8 ans qui vous a mené donc jusqu'au Grand Nord et qui vous a fait passer 2 ans parmi les Inuits. Vous voilà aujourd'hui consacré premier écrivain voyageur africain. Rien que ça. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire en bandeau sur votre livre reparu en France aux éditions Artaud. Comment est-ce que vous prenez ce noble titre ? C'est quoi ? Embarrassant ? Exagéré peut-être ? Parce que vous êtes en tout cas certainement le premier Africain que l'on voyait au Groenland.
Le premier, oui, jusqu'à présent, je pense qu'il n'y en a jamais eu. Et puis surtout, les Groenlandais me l'ont démontré. La curiosité avec laquelle il m'entourait montrait très bien qu'il n'avait auparavant jamais vu quelqu'un comme moi. J'étais vraiment le premier Africain que les Groenlandais découvraient. Le mot Kasluna ou Kaslunak ou Kabluna chez les Inuits du Canada signifiait le blanc, l'homme blanc. Mais les Groenlandais, en me voyant, m'ont aussi appelé Kashlunak. Je me dis, mais ils sont daltoniens ou quoi? Et c'est plus tard que j'ai appris que le mot Kashlunak ne veut pas du tout dire le blanc, veut dire simplement l'étranger, mais l'étranger qui vient du sud. Alors, venir plus au sud que moi, il n'y en avait pas.
Alors, votre trajectoire unique, singulière, pour l'époque déjà à laquelle elle s'est dessinée, à la fin des années 50, début 60, à l'aune des indépendances africaines, quand vous décidez à seulement 16 ans de quitter votre Togo natal. Et puis aussi, elle est singulière pour la façon dont elle s'est déroulée. C'est un peu une succession de, on va dire, tente la chance, de hasard heureux aussi, qui finalement, au bout de 8 ans, parce que vous avez mis 8 ans à rejoindre le Groenland, vont vous mener donc jusqu'au Groenland, où vous allez passer 2 ans de vie en immersion parmi les Inuits. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, 60 ans après ce premier voyage, vous avez le sentiment d'avoir eu de la chance ? En même temps, vous l'avez provoqué, cette chance, sans cesse. Vous étiez déterminé à aller au nord.
De la chance, non et oui. Non, parce que le traumatisme qui a déclenché ma rébellion ou ma désobéissance était vraiment dure à supporter. Et chez moi, je crois qu'il y avait une double désobéissance. D'abord, désobéissance à ma culture. On voulait que je devienne prêtre du serpent que j'avais offensé, soi-disant, et cela m'avait terriblement effrayé. En plus, désobéissance envers le colon, désobéissance envers l'occupant. Figurez-vous que j'ai passé une enfance traumatisante aussi. Pour aller à l'école, nos prénoms africains n'étaient pas acceptés.
Parce que vous êtes né à l'époque encore colonial.
Oui, il fallait choisir un prénom chrétien. Et notre père, qui travaillait comme chef d'équipe à l'UNELCO, UNELCO, Union électrique coloniale. Eh bien, papa rentrait chaque année avec un calendrier en carton, 6 mois d'un côté et 6 mois de l'autre, avec tous les noms des saints. Et il choisissait des noms. Alors, j'avais notre frère aîné, il s'appelait Norbert. Ensuite, il y a eu Pantaléon. Ensuite, il y a eu Darius. Il y a eu Grégoire. Il y a eu Isidore. Et moi, Michel. Les pères blancs qui essayaient de convertir notre père m'avaient offert une image de Saint-Michel. Et moi, je me prenais véritablement pour Saint-Michel terrassant le dragon. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que le dragon que je terrassais n'était autre que mon grand-père et ma culture que j'écrasais et qu'on m'apprenait à écraser par cette façon-là. Donc, ça a été cette double désobéissance qui m'a certainement donné l'élan.
Alors ensemble, on va justement prendre de l'élan et reprendre le fil de ce grand voyage qui vous concernant est bel et bien le voyage d'une vie, puisqu'il va façonner toute la suite de votre existence. Car comme dit le proverbe danois, qui voyage jeune deviendra sage, extrait de votre livre « L'Africain du Groenland ».
Nous arrivâmes le dimanche 27 juin vers midi. Le soleil nous parut beaucoup plus chaud quand le bateau, sortant enfin de l'immense banquise, s'engagea dans le fjord qui conduit à Julianhab. Devant nous, maintenant, se profilaient contre un ciel bleu de hautes montagnes grises au sommet enneigé et aride. Une brume les auréolait. Dans le fjord, quelques icebergs de plus petite taille flottaient dans l'eau tranquille. Nous abordâmes le débarcadère et je vis, à travers le hublot de ma cabine, toute la population rassemblée sur la place à côté de l'entrepôt. J'étais préoccupé de savoir quelle serait leur première réaction en voyant descendre du bateau un noir. Tel un acteur qui se prépare avec soin avant de paraître sur scène, je pris mon temps pour me rhabiller dans ma cabine. Puis, les mains en poche, je sortis. Eh bien, en me voyant, ils cessèrent tous de parler. Le silence fut tel qu'on eût pu entendre une mouche voler. Puis ils sourirent à nouveau. Des enfants saisirent le bas du manteau de leur mère. Quelques-uns se mirent à crier de peur, à pleurer. La foule se fendit en deux pour me laisser passer. J'entendis alors distinctement le mot « Kusanak » prononcé par une femme. Un mot flatteur que je ne compris pas sur le moment et qui signifie « beau dans quel sens ?» Pour les enfants, j'étais un être surnaturel et redoutable qui vient exterminer le village. Il faut croire qu'en dehors du fait d'être noir, ma taille, 1m80, contribuait à inspirer cette frayeur aux enfants dont les parents ne dépassaient guère 1m60. Et peut-être, pour cette femme aussi, j'étais beau précisément à cause de ma taille. Deux jours plus tard, la radio de Gotthab, la capitale, annonçait ainsi l'arrivée d'un Africain dans le pays. C'est un homme très grand, avec des cheveux comme de la laine noire, des yeux non bridés mais en forme d'arc et ombragés de cils recourbés. Le futur patron de Chris nous emmena chez lui pour boire de la bière. Tous les enfants abandonnèrent leurs parents et nous suivirent. Il en sortait de chaque maison. Ce fut bientôt derrière moi un attroupement si important que le mince effectif de la police de Kakortok fut obligé de nous suivre lui aussi afin d'empêcher les enfants de bousculer l'étranger. La scène me fit penser aux Lilliputiens entourant Gulliver. Parti pour découvrir, j'étais moi aussi une découverte.
T'étais Michel Pomassy, cette première rencontre tant attendue avec les Inuits en 1965 donc. J'imagine que forcément elle est encore gravée dans votre mémoire. Sachant que vous arrivez depuis Copenhague en bateau sur cette immense île, la plus grande au monde, 2 166 000 km², tout en bas du Groenland, à Julianhab ou Kakortok. Et on l'entend, vous faites référence au conte de Gulliver. Moi, j'ai pensé, en vous lisant, en vous écoutant, à une autre image, un autre conte, avec cette image comme ça du joueur de flûte de Hamelin, où on vous imagine comme ça, suivi par une ribambelle d'enfants, intrigués, presque envoûtés, en quelque sorte. C'est l'effet que ça m'a fait.
Après 8 années de voyage et, disons, 7600 kilomètres de parcourus, arrivé à Qaqortoq, dans l'extrême sud du Groenland, eh bien, je me suis aperçu que ce n'était que le début de mon voyage. J'étais la terreur des enfants qui m'appelaient le Tornasuk ou le Krivitok, c'est-à-dire un esprit vivant dans les montagnes. Et puis, certainement... Alors, ce qui est amusant dans mon histoire, c'est que je pars pour une découverte, et bien pour m'apercevoir que j'étais moi-même une découverte. Et ce double regard a été pour moi d'une richesse inouïe, et j'ai été effaré, effrayé même par la vie des habitants. Dans le sud, je n'avais pas du tout l'impression d'être au Groenland. Il n'y avait pas d'igloo, il n'y avait pas de kayak, il n'y avait pas un seul chien, parce que les chiens avaient été exterminés par les Danois qui introduisaient quelques moutons dans le sud du Groenland et dont les chiens étaient friands.
Donc ils étaient repoussés, en fait, il y avait une limite au Groenland qui fait que tout le sud, il ne pouvait pas y avoir de chiens.
Les Inuits étaient sur place, mais ils ont fixé une limite des chiens et cette limite commençait par la ville de Sisimiut. En deçà de Sisimiut, pas un seul chien. De l'autre côté, oui, et là, c'est là où commençait véritablement le Groenland. Donc, je vais pendant 2 ans longer toute la côte du Groenland.
La côte ouest.
En montant vers le nord, en séjournant dans chaque agglomération pour essayer de m'imprégner de la vie dans chaque communauté avant d'aller vers la communauté suivante. Parce que les habitudes changent. Alors, il a fallu que je m'acclimate en même temps, petit à petit, parce qu'en passant d'une température de 0 degré à moins 10 degrés, à moins 20 degrés, à moins 30 et jusqu'à moins 40 degrés, et il a fallu quand même m'acclimater peu à peu.
Et alors, malgré ce premier effroi, on va dire, ou en tout cas cette surprise, dès votre arrivée quand même, et cette première rencontre sur le quai, où on sent bien que chacun se jauge, il y a comme ça cet effet de surprise, le fait que eux, les Inuits, n'avaient pas vu jusque-là une personne noire et un Africain venir au Groenland, vous êtes quand même accueillis à bras ouverts, puisque vous êtes un peu l'étranger qu'on s'arrache.
Écoutez, le deuxième jour de mon arrivée au Groenland, un petit groupe d'enfants a osé s'approcher de moi. Le plus courageux d'entre eux me regarde et puis me dit « Kanok Aterapit ». Je ne comprends pas.
Oui, parce qu'à l'époque, à ce moment-là en tout cas, vous ne parliez pas leur langue.
Pas un seul mot. Je secoue la tête et puis il se touche la poitrine en disant « Wana akalomik aterapunga ». Je ne comprenais toujours pas. Il désigne une fille en disant « Una, celle-là, Una, naya aterapok ». Ah, tu veux savoir comment je m'appelle? Alors je dis « Ben, tété Michel Mik aterapok ». Oh, ils me disent, oh, picoré, oh, tu es intelligent. Alors, ils sont allés répéter dans tout le village que, alors, à partir de ce moment-là, Tété Michel est trop long pour eux, ils m'appelaient Mikili. Ils disaient, Mikili Swak, le grand Michel, Mikili Swak est très intelligent. Il sait conjuguer un autre verbe, hein, aterapunga, aterapik, aterapok, aterapung, aterapusi, l'accueil a été, sachant que j'étais quelqu'un d'intelligent, finalement. Chacun voulait m'accueillir chez lui. Et ils ont tout partagé avec moi. Ils ont partagé avec moi leur nourriture. Bon, c'est vrai que pour entrer véritablement dans un peuple, il faut commencer par accepter sa nourriture.
Alors justement, dans une sorte d'anthropologie vivante et réciproque, vous allez sur place découvrir, partager, vous l'avez dit, le mode de vie des Inuits. Vous allez partager leur table. Et là, et c'est ce qu'on découvre dans votre livre, dans votre récit, l'Africain du Groenland, pas mal de choses vous étonnent par rapport à ce que vous aviez connu forcément enfant au Togo, comme déjà la place des anciens, celle des femmes aussi, et surtout celle de l'enfant dans les familles groenlandaises. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Mais l'enfant est véritablement sacré au Groenland. Et pour moi, c'est une notion d'autant plus chère que chez moi, par exemple, le droit d'aînesse, si je peux m'exprimer ainsi, est tellement important que le dernier de la famille, le benjamin, est écrasé. Parce que quand notre père donne un ordre, nous étions 26 dans ma famille. Mon père avait 8 épouses. Ma mère était la troisième femme de mon père. Bon, évidemment, chaque femme avait 4 enfants ou 5 enfants, etc. Mais en tout cas, on était 26. Et le dernier, alors que partout ailleurs, j'ai vu que le dernier enfant est chuchoté, eh bien, chez nous, non. Ah non, 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 le dernier, c'est ça. Il y a toujours cette, en Afrique, cette idée de l'aîné qui donne l'ordre au plus petit.
Donc c'est lui qui a autorité. Alors qu'au Groenland, c'est tout l'inverse, c'est ce que vous expliquez. L'enfant est roi.
Les Groenlandais sont à la disposition de leur enfant. C'est ce que décide l'enfant. Par exemple, quand un enfant disait à ses parents, ce soir, Mikili Swak dort ici. Là, ils ne reviennent jamais en arrière. On n'aurait pas osé cela chez moi.
Alors, Tété Michel Pomassi, puisqu'on parle de l'enfance, revenons, si vous le voulez bien, on en a déjà un peu parlé, sur la vôtre d'enfance, celle d'un petit Mina, né dans une famille, vous l'avez dit, traditionnelle togolaise, à une époque, on en a parlé encore coloniale. Et vous l'aurez remarqué, j'ai reculé ce moment de vous poser la fameuse question qu'on a entendue au tout début de l'émission, qui était dite par un enfant et adressée à Paul-Émile Victor. À vous, on l'a forcément posée, cette question, c'est celle du pourquoi de ce voyage, sur ce qui a bien pu vous amener, vous, le petit Togolais, à rêver comme ça, si jeune, du Groenland. Mais avant d'écouter votre réponse, on va écouter un homme qui a participé à allumer chez vous la flamme de l'aventure, à une époque où l'on parlait encore d'Esquimaux.
De la Sibérie jusqu'au Groenland, les Esquimaux ont tous la même origine. Ils viennent tous du nord de l'Asie, tous de Sibérie. C'est là-bas que s'est constituée la civilisation Eskimo qui permet d'avoir des maisons de neige, qui permet de faire du feu avec de la graisse animale et qui permet d'avoir ce si extraordinaire, si magnifique arme qu'est le harpon qui retient des animaux et les frappe sous la glace. Le terme Eskimo n'est pas un terme de leur langue. C'est un mot qui vient probablement d'un dialecte amérindien, des Algonquins qui vivaient au sud des Eskimo et qui ont dit ce nom-là à un missionnaire français, le père Biard, vers 1730 ou 1740. Dans leur langue algonquine, ils ont dit « Eskimao, il y a des gens au nord de chez nous ». Et le père Biard a compris que ces gens mangeaient de la viande crue. C'est ainsi qu'on les désignait. Mais c'est un mot qu'ils récusent actuellement, les Inuits, ils trouvent ça injurieux. Pour eux, Eskimo, ça veut dire à la rigueur ce qui se passe autrefois, nos lointains ancêtres, dont les archéologues nous racontent comment ils vivaient il y a 1000 ou 2000 ans, c'est tout. L'ensemble des Esquimaux se donne un nom, c'est Inuit, I-N-U-I-T, qui veut dire au pluriel les hommes. Le singulier, c'est Inu. Avant qu'ils ne découvrent les Blancs, avant que les Blancs ne les découvrent, comme vous voudrez, ils s'appelaient les hommes.
Tété Michel Pomassi, les voyages changent la vie, vous en savez quelque chose, mais aussi les livres changent la vie. Puisque c'est ce qui vous est arrivé quand vous avez découvert, adolescent, au Togo, un livre sur les peuples du Grand Nord, Robert Gessin, qu'on vient d'entendre, dans une archive issue des expéditions polaires françaises, parue aux éditions Frémaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet homme, Robert Gessin, et ce livre ? Vous l'avez là ?
Oui, les Esquimaux du Groenland, là.
Comment vous l'avez découvert ?
Quelques jours avant de retourner dans la forêt sacrée où mon père me destinait pour devenir prêtre de ce culte des serpents, Et je suis allé nonchalamment à la librairie évangélique à Lomé et je vois sur le comptoir différents livres et un livre, Les Esquimaux du Groenland à l'Alaska. Aucun des mots sur la couverture, je ne comprenais aucun des mots. L'Esquimaux, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Le Groenland, pas du tout. L'Alaska, encore moins. Mais la photo sur la couverture montre un homme, visiblement un chasseur, habillé en peau de bête. Et puis, je ne sais pas, il y a eu tout d'un coup comme une sympathie réciproque.
Était Robert Gessin, excusez-moi?
Robert Gessin a été le directeur du Musée de l'Homme. Mais je ne l'ai appris que beaucoup plus tard. Moi, j'ai acheté le livre et puis je l'ai lu, il m'a emballé, je suis parti. Avant mon voyage au Groenland et pendant mon séjour au Groenland, je n'avais jamais entendu parler de Paul-Émile Victor, jamais entendu parler de Jean Mallory. Le mot ethnologie ne signifiait absolument rien pour moi parce que j'ai été à l'école pendant 6 ans seulement.
Sachant que Robert Gessin était effectivement parti avec Paul-Émile Victor au tout début dans les années 30, 34, c'est ça?
Exactement.
À bord du, pourquoi pas, le navire du commandant Charcot.
C'était à Massalik, sur la côte est du Groenland. Et à mon retour, quand Robert Gessin a su que c'était son livre qui m'avait donné cette énergie d'aller vivre la vie des Esquimaux pendant 2 ans, eh bien, il m'a reçu chez lui. Ce moment-là, pour moi, était... mon histoire devenait pour moi-même comme un conte de fées.
Vous aviez donc cet élan pour le Grand Nord qui a été suscité par ce livre d'abord. Qu'est-ce que vous fuyiez à l'époque?
Oui.
À l'âge de 16 ans.
Oui.
Vous avez parlé de désobéissance déjà, c'était ça, vous fuyez le père, la famille, les traditions, les serpents, puisque effectivement vous étiez destiné à servir le culte des serpents après une chute, une maladie. Qu'est-ce que vous fuyiez au juste?
Je fuguais tout cela. Je reniais à la fois ma culture, mais aussi la culture occidentale chassait la mienne.
Mais en même temps, vous fuyez vos traditions pour aller en retrouver d'autres dans un autre hémisphère, dans le froid et la neige.
Eh bien voilà, c'est cette rencontre qui m'a fait aimer ma tradition. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important qui motive tout ça. En Afrique, on nous transformait en petits Français. Par exemple, même, j'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour, etc. On nous orientait vers la France. On est venu même jusqu'à nous dire, à nous faire réciter des choses comme « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Mon grand-père ne comprenait rien. Parce que chez nous, dans ma culture, c'est nous qui nourrissons nos dieux. Par des offrandes, par des sacrifices, etc. C'est nous qui les nourrissons. Mais on est allé dire la même chose aux Esquimaux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Colonisé par les Danois.
Et Hans Egede, le premier pasteur danois norvégien arrivé au Groenland en 1721, s'est confronté devant un problème. Nous voilà sur une terre glaciale, glacée, où ne pousse aucune céréale, les gens n'ont jamais vu de blé ni de pain. Alors comment traduire « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Eh bien, Hans Egede a traduit par « Donnez-nous aujourd'hui notre phoque quotidien ». Et ça a été un mépris pour ce peuple qui, pendant des millénaires, sait très bien que le phoque ne se donne pas. Le phoque, il faut conquérir le phoque. Quand j'étais au Groenland, je suis allé 4 fois déjà jusqu'à présent, mais pendant mon premier séjour, on suspendait les morceaux de rennes, de phoques devant la maison par moins 20, par moins 30. C'était comme un congélateur naturel. Quand je suis retourné au Groenland 20 ans plus tard, j'ai vu qu'on a réussi à vendre des congélateurs aux habitants. Alors, si bien que je me suis dit, mais finalement, la religion et le capitalisme marchent la main dans la main. On nous a floués, aussi bien nous, Africains, que le peuple groenlandais. Et c'est là où j'ai vu que nous avons un destin commun, l'Africain et l'Esquimau. J'arrive au Groenland. Dans le sud, il y avait beaucoup de problèmes d'alcoolisme. Les habitants passent leur temps à boire. Et je me suis dit, mais les Groenlandais n'ont jamais fabriqué d'alcool.
Non, l'alcool est danois, c'est un produit d'importation.
Ce sont les Danois qui ont introduit l'alcool chez eux. Dans mon village, dans mon enfance, il n'y avait qu'un seul verre. Parce que pendant les fêtes, une seule personne servait à boire. Et cette personne s'approche avec le sodabi. Le sodabi, c'est du vin de palme distillé, qu'il mettait dans un verre et donnait, il commençait par le tendre ce verre au plus ancien du village. Que fait celui-ci? Il prend son verre, il commence à invoquer les dieux. Ensuite, les ancêtres. À chaque nom, il versait une goutte de boisson sur le sable, par terre. Si bien qu'à la fin, il ne restait qu'un petit fond avec lequel il se mouillait la langue. Si bien que quand tout le village est passé, eh bien, on était saoul par les pulsations du tam-tam plutôt que par l'alcool. Le fait de donner à boire aux ancêtres et aux dieux était pour nous une prévention énorme contre l'alcoolisme parce que tout ce qu'on versait par terre aurait pu se retrouver dans notre gosier. Et j'ai vu qu'au Groenland, c'était tout à fait l'opposé. Donc, je me suis dit, mais tiens, il y avait du bon dans ma culture. Et que, vous savez ce qui s'est passé? Le sodabi qu'on servait chez moi, c'était du vin de palme distillé. Le colonisateur nous a dit, le sodabi est mauvais pour votre santé. Le gin vaut mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va au Togo et quand on va au Bénin, ce sont des bouteilles de gin qu'on trouve devant nos divinités. Des bouteilles de gin vides. Alors, la bouteille de gin, chez nous, le congélateur, chez les Inuits, mais je trouve que c'est quand même le but de la colonisation. C'est l'exploitation. Et vraiment, c'est nous mettre à genoux devant cette puissance de l'argent.
Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, au Groenland, dans certains villages, l'alcool serait banni, vu les ravages, et on l'a dit, qu'il a provoqué dans les communautés. Et puis, ce peuple à genoux s'est aussi mis debout dès la fin des années 60 au Groenland, puisqu'il y a eu un sursaut autochtone qui va avoir lieu. Le Groenland va acquérir une autonomie aussi grandissante par rapport à la couronne danoise. Tout de suite, on écoute Soumé, premier groupe de rock à avoir chanté en groenlandais dans les années 70. Vous sauriez, Tété Michel, vous devez les connaître. On leur doit la bande-son de ce printemps groenlandais. Mais là, tout de suite, c'est l'automne qui nous chante Soie ou Kiak.
Oh. Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
À Si loin, si proche, on voyage toujours en compagnie de Tété Michel Kpomassi, tout au nord du monde. Lui qui, en 1957, à l'âge de 15-16 ans, a quitté les rives de son Togo natal pour rejoindre celle bien jolie du Groenland, par moins 20 degrés, parmi les immensités blanches et la nuit polaire. Un grand voyage comme un renversement du ciel qu'il racontera dans son livre « L'Africain du Groenland ». Sachant que là-bas, hier comme aujourd'hui, on se réchauffe à coups de graisse de phoque ou d'alcool danois, on en a parlé, mais aussi de danse. Et vous en avez fait pas mal, Tété Michel Kpomassi, de bal pendant vos 2 ans là-bas. Vous avez beaucoup dansé et puis vous avez fait aussi beaucoup de rencontres, féminines notamment.
Oui, oui, absolument. J'ai été happé par cette population. Une immersion alors là, totale. Et si bien que tous les soirs, les amis groenlandais venaient me chercher dans ces mics pour des parties de danse. Et puis, évidemment, on rentrait avec des copines. Mais moi, l'étranger, je n'avais pas de copines hein, au départ. Mais... J'ai dansé avec une fille avec qui je suis rentré chez moi. Et puis, moi, né en Afrique, me trouvant au Groenland à l'âge de 24 ans, la première fois qu'une femme m'a dit sérieusement « je t'aime », eh bien, ça a été en esquimau. « Asavakit ».
C'est comme ça qu'on dit « Asavakit ».«
Asavakit, je t'aime ». Et tellement troublé, tellement... J'ai failli arrêter mon voyage. Mais c'était dans le sud, c'était pas le Groenland. Et qu'est-ce que je découvre après? Je retourne vers cette fille qui m'a dit « Asavakit » et je la vois dans le lit avec le frère de mon meilleur ami. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je fais une scène !» Et je dis, mais c'est impossible, je ne peux pas accepter cela. La copine de cette fille s'est dressée contre moi et m'a dit, mais avant ton arrivée, Carl et Lydia étaient toujours ensemble. C'est-à-dire que ce garçon partageait sa copine avec moi. Et voilà que tout d'un coup, je suis jaloux. J'ai dit, mais je ne comprends plus rien dans cette histoire. Mais c'est beaucoup plus tard, dans les villages du Nord, où j'ai passé l'hiver polaire, dans un village de 70 habitants, où il y avait 600 chiens. 70 habitants et 600 chiens. C'est dans ce village où j'ai vu véritablement ce que signifie le partage de femmes.
Oui, parce que c'est un système, entre guillemets, en tout cas une coutume, d'échange de femmes, qui permet en fait de protéger les familles, puisque deux hommes amis peuvent partager leur femme, puisque si l'un de ces hommes va périr lors d'une chasse, s'il a le malheur de partir seul et de ne pas revenir, cette femme pourra être protégée par, on va dire, son amant ou ce deuxième homme.
Exactement, exactement, c'est cela. Si bien qu'un chasseur qui meurt à la chasse eh bien, n'a pas sa famille qui meurt de faim. Il y a l'ami d'échange. Donc, c'est une question de survie, c'est une tradition. Les Groenlandais modernes du Sud qui perpétuent cette tradition, qui n'a peut-être plus raison d'être, mais ont complètement perdu le sens sacré de cette coutume-là.
Et alors, dans cet échange comme ça culturel, il vous apporte beaucoup. Qu'est-ce que vous, l'Africain du Groenland, vous leur apportez, à votre avis ?
Ce que je leur apporte, je crois que jusqu'à présent, c'est quand même un regard plus étendu. Aujourd'hui, le gouvernement autonome du Groenland me demande, à moi et à mon éditeur, la permission de reproduire des extraits de mon livre dans les manuels scolaires du Groenland.
Quel honneur.
Crois que cela n'est jamais arrivé là-bas pour un Africain. Et en Afrique aussi, il y a des manuels scolaires qui reprennent des passages de mon livre pour montrer le Groenland aux collégiens africains. Je crois que ce que je leur apporte, c'est déjà ça. Mais je crois que je vais encore leur apporter davantage si je retourne là-bas. Je leur dirai, tout le monde sait que l'Arctique est très convoité par toutes les puissances.
Pour toutes ses ressources. Ce fut un temps les baleines,
Canada,
aujourd'hui
Chine,
sont les terres rares, les hydrocarbures.
Oui, est convoité par tout le monde. À cause de ces richesses que la fonte des glaces révèle de plus en plus et qui va être exploitée. Moi, je leur dirais ceci. Regardez l'Afrique, qui croule sous des ressources incommensurables, mais où les habitants meurent de faim. Faites attention, ne suivez pas notre exemple. Ma présence sera pour eux un enseignement sur ce plan-là. Ce qui veut dire que gardez vos traditions, ne vous laissez pas ravir ce que vous avez de plus important au monde.
Et plus noble, notamment leur culture, comme vous l'avez dit.
Oui, tout à fait, exactement. C'est quand même incroyable quand on pense à l'état dans lequel est réduite cette population, qui pour moi est certainement le peuple le plus héroïque au monde.
Oui, parce que vous les avez vus chasser, le phoque, pêcher, vous avez vu ce génie, en fait, inuit, et cette immense faculté d'adaptation, puisque vous les avez suivis. Et puis vous étiez en quête de traditions, peut-être pas intouchées, mais en tout cas, vous vouliez aller, et vous l'avez dit, toujours plus au nord, avec cette idée en tête, de rejoindre la cité la plus septentrionale du Groenland et du monde, Thulé. Alors Thulé, c'est un nom à jamais associé à l'immense figure colossale de l'ethnogéographe français Jean Mallory, parti là-bas dès 1950. Cet écrivain, éditeur, explorateur polaire et ardent défenseur des autochtones du Grand Nord, comme vous, a d'ailleurs préfacé la réédition de votre ouvrage en 2015. Et à Si loin, si proche, nous avons eu la chance de rencontrer Jean Mallory en 2018.
Ma vie était très difficile au tout début, parce qu'au début, je pars donc dans un village où il n'y a pas de blanc, ils n'en ont jamais vu, s'il y en rappelle. Et là, j'ai eu 3 mois, j'appelle le trou noir. C'est le désespoir. Je ne sors plus, qu'est-ce que je fais là? Et les Inuits me méprisent. Ils se disent, oh, pff, encore un qui a quitté son bateau d'exploration, qui vient demander au secours, parce qu'il y a des ours, il y a la nuit. C'est plus compliqué. Je suis enceinte de moi-même. Et un autre Mallory, qui est en moi, va naître. Je peux vous évoquer une de ces inspirations. Je suis sur mon traîneau, nous sommes sur la glace, c'est la nuit, totale. Mais il y a une lune. Mes chiens s'arrêtent, et j'ai un moment, et c'est la raison pour laquelle je tiens à l'Arctique, car je suis d'une nature religieuse. Et la méditation, c'est chez eux que je l'ai eue. Donc, le traîneau est arrêté, et là, j'ai un vide en moi, un vide taoïste, et je m'élève. C'est le début de ce que j'aurais pu apprendre plus tôt, de cette faculté de... comment dirais-je, de la consonance avec la glace, avec la nature. Ces Inuits l'ont parfaitement compris que cette nature est vivante et ils font partie de cette énergie. Donc c'est le début de l'animisme, de s'en remettre à cette énergie du monde. Et les chiens des inspirateurs ont tout compris. Je vais être dans un dialogue muet, leur enfant. Donc, peu à peu, cet animal, essentiel de mon attelage, va me faire comprendre qu'il y a une parenté entre lui et moi, l'homme et l'animal. Et il se trouve que dans l'histoire inuite, c'est un chien qui copule une humaine et fait naître le peuple inuit.
Et c'est aussi comme ça que la plupart des contes inuits débutent. Il était un temps où les animaux et l'homme parlaient la même langue.
Si vous le permettez, mes amis inuits ne me contrediront pas, je peux vous parler inuktitut. Aglanu, aglanu, krimekuna. Voilà, il y a longtemps. Et ce très longtemps nous fait vivre la naissance de l'univers.
C'était Michel Pomassy. Cet animisme des peuples du Grand Nord, les grands mythes de la création aussi que vient de convoquer Jean Mallory, vous les avez retrouvés vous aussi, ces grands mythes, avec cette résonance, avec l'animisme aussi de vos pères africains.
Ce que j'aime beaucoup dans cet extrait, c'est je me rends de plus en plus compte que Jean Mallory est des nôtres. Il fait partie de nous, ce peuple ou ces peuples dont on a méprisé la religion profonde qui n'est que l'animisme.
C'est-à-dire l'âme même d'une certaine manière.
Oui, la religion, c'est quelque chose qui nous lie profondément. Arnakwasaak, qui est la déesse des Inuits, la déesse de la mer, que chez les Inuits du Canada, on appelle Sedna, c'est-à-dire celle qui est là, au fond.
C'est-à-dire que Jean Mallory serait autant africain que groenlandais. C'est ça que vous voulez dire?
Absolument, absolument. Et il est des nôtres. Et cet animisme-là existait avant tout ce qu'on peut appeler religion révélée, qui nous détruit, alors que nous, nos dieux, vivent en exil sur leur propre terre. Certains viennent jusqu'à nous dire que l'Afrique est le pays de leurs dieux. Voyons, l'Afrique, c'est la terre de mes ancêtres et la terre de mes parents qui y sont enterrés et non d'aucune religion qui viendrait d'ailleurs et qui n'a toujours jusqu'à présent que chercher à nous faire disparaître de la surface de la terre. Et ça, ce n'est pas acceptable.
On sent que vous êtes un voyageur en colère.
Je suis un voyageur. On dit que le voyage forme la jeunesse. Moi, à l'intérieur de mon voyage kilométrique, s'est opéré aussi plusieurs voyages intérieurs.
Surtout qu'il y a comme ça cette idée presque d'initiation et que vous êtes parti enfant d'Afrique, ou en tout cas adolescent, et que chemin faisant, vous êtes devenu homme au Groenland et vous êtes revenu en Afrique. Un homme un peu plus sage, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au bout de ce voyage et de votre livre, vous rencontrez un personnage assez fascinant, très attachant, Robert Matak, qui va justement vous initier d'une certaine manière au grand mythe et à cette déesse de la mer, ce grand esprit de l'océan dont vous avez parlé. Et donc finalement, fort de ça, vous repartez, puis c'est même lui qui vous emmène au bateau quand vous décidez finalement de repartir en Afrique et de quitter le Groenland après 2 ans et de ne pas rejoindre Tulé, tant pis pour Tulé. Et on sent que vous revenez quelque part initié.
Oui, encore une fois, le voyage et forme, la jeunesse et moi, c'est le Groenland qui m'a fait homme. Mais il était nécessaire que je revienne chez moi. Que je partage avec mes 26 frères et sœurs, et puis surtout avec mon grand-père au village.
Votre grand-père, Sewa, il y a quelque chose qui est très très beau d'ailleurs dans votre livre, Sewa. En tout cas dans la postface, où vous racontez un peu plus votre retour en Afrique, puisque ce n'est pas dans la première édition. Et donc dans cette postface, vous racontez comment, pour la première fois, c'est comme ça que vous l'écrivez, existe dans notre village, votre village sous l'équateur, la neige, qu'elle va s'inviter pour la première fois là-bas dans les conversations, puisque vous cherchez à expliquer à votre grand-père Sewa la neige, la banquise, et qu'en Mina, il n'y a pas de mot pour ça.
Mais Ataï, vénéré grand-père, n'avait jamais vu de neige, et puis je lui dis, Ataï, écoute, imagine que tous les oiseaux du ciel sont en train de perdre leurs plumes.
Blanche, bien sûr.
C'est ça, la neige. Il me dit, Tété, tu as beaucoup voyagé, mais est-ce que tu as déjà vu un ciel avec seulement des oiseaux blancs? Je dis, non, Ataï, mais imagine, tout simplement. Imagine que tous les oiseaux du monde sont blancs et puis ils sont en train de perdre leurs plumes. Alors, il a dit, bon, je vais essayer. Alors, le lendemain, il a dit, oui, Tété, j'ai vu la neige tomber. Comment ça? Ah oui, j'ai vu tous les oiseaux blancs qui perdaient leurs plumes. Il y en avait tellement qu'on ne voyait même plus le soleil. Ah ben oui, j'ai dit que c'est comme ça. Oui. Mais il manquait quand même la notion de la froidure, la notion du froid, la notion de ce, de cette. Et puis, le fait aussi de marcher sur la mer qui est gelée.
Et alors, vous vouliez tellement partager, raconter ce que vous aviez vécu à votre famille, mais aussi au-delà, que vous vous êtes lancé à votre retour, donc à 27 ans, dans une tournée sur les routes, quasi sac au dos, une tournée d'écoles, de centres culturels, dans 16 pays quand même d'Afrique équatoriale et occidentale, faisant de vous en quelque sorte un ambassadeur, on peut le dire, de l'Arctique en Afrique. Et ensuite, votre livre est sorti.
Oui, exactement. J'étais comme un Inuk. Bon, Inuk, c'est le singulier. Et le pluriel, c'est Inuit. J'étais véritablement comme un Inuk dans mon village. Déjà pour dire dans mon village comment on traite les enfants dans le pays et d'où je viens. Vous savez, le gouvernement norvégien m'a invité en 2007 à visiter le Spitsberg.
Oui, parce qu'en fait, après la sortie de votre livre, etc., on va conclure autour de ça, ça a suscité énormément d'intérêt. Vous avez rencontré beaucoup de personnalités du monde, on va dire, de l'exploration polaire, beaucoup d'intellectuels, de chercheurs. Vous avez partagé votre livre de par le monde. Vous avez voyagé énormément avec un seul livre. Et c'est vrai que on se pose la question, est-ce que avec tout ça, vous avez finalement réussi à rejoindre Thule, cette inaccessible étoile ?
Thule reste toujours dans mon conscient ou subconscient comme encore le but à atteindre. J'ai encore un besoin immense de vivre à Thule, dans la région, ou de Savi Civic, ou de Siorapaluk, et de terminer ma vie quelque part là.
Parce que vous allez avoir bientôt 80 ans, et donc vous vous projetez justement à faire ce grand voyage.
Absolument.
Au Groenland.
Oui, absolument.
C'est le prochain.
Oui, oui, je projette d'aller à Thule. Mais si je n'arrive jamais à Thule, comme mes dernières tentatives en 1965, je n'ai jamais pu atteindre Thule, il faut quand même que je retourne au Groenland, absolument.
Très bien.
C'est plus fort que moi. J'ai l'impression que si le Groenland avait été une femme, eh bien, j'en aurais fait mon épouse.
C'est en tout cas l'amour de votre vie. Merci, Tété Michel Pomassi. Merci à vous pour tous ces souvenirs. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Africain du Groenland, disponible en France aux éditions Artaud. Et j'imagine, j'espère, un peu partout dans les bibliothèques du continent africain, mais aussi dans les manuels scolaires. Chers auditeurs, Laura Larry et moi-même, Céline Develay-Mazurel, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.